Hack the press.
Hack the press.
Ça, c'est du dev. Il faut définir les informations qu'on va mettre dedans.
Nous sommes le mercredi 11 janvier au cœur du passage des panoramas et c'est dans le bel espace de la cantine numérique que se tient aujourd'hui Hack de Presse, un événement imaginé et organisé par toi, Sabine Blanc. Bonjour.
Bonjour. Alors, donc, imaginer, c'est peut-être un grand mot. En fait, j'ai repris une idée qui existait déjà aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et je me suis dit, on va le faire en France, il n'y a pas de raison.
La première fois, c'était il y a un peu plus d'un an, en octobre 2010.
Voilà, c'est ça. Donc, on avait fait un premier essai pour voir si ça marchait. Ça a marché. Donc, deuxième essai avec une formule un peu renouvelée.
Alors, on avait déjà diffusé un reportage il y a un an et demi, quasiment, pour la première version de Hack de Presse. On peut quand même rappeler, vu le temps qui s'est passé, de quoi il s'agit.
Alors, il s'agit d'une bataille amicale entre équipes pluridisciplinaires, donc qui associent journalistes, développeurs et graphistes qui doivent donc produire un contenu journalistique à partir de données.
Concrètement, ça se passe comment alors ?
Pour cette édition, on a tiré au sort des équipes. Ils devaient travailler donc sur des données de regard citoyen, des données assez larges puisque c'est celle de nosdéputés.fr et nossénateurs.fr, donc sur l'activité des parlementaires, des élus, je sais pas, leur présence par exemple, leur activité, les groupes auxquels ils appartiennent. Et ils avaient donc une journée pour faire quelque chose.
Pour qu'ils puissent imaginer en fait des applications, des créations à partir de ces masses d'informations liées à la vie parlementaire en France.
Voilà, c'est ça, parce que les données brutes en elles-mêmes n'ont pas de sens. Et c'est donc tout l'intérêt du data journalisme que de donner du sens à ces données. Donc chaque équipe a trouvé un angle en fait et l'a développé dans cette journée.
Alors je remarque que par rapport à l'an dernier, il y avait à peu près le même nombre d'équipes, 6-7, mais il y avait des équipes beaucoup plus petites, 3-4 personnes en général, 5 maximum. Là je vois que les équipes qui sont derrière nous, on va aller les voir après, sont de grande taille. Enfin, il y a 7, 8, 9 personnes.
Effectivement, déjà on a quand même un peu plus d'équipes. Et on a beaucoup de débutants en data journalisme, ce qui nous fait plaisir, parce que ça montre qu'il y a une envie de se former à cette spécialisation.
Une envie et peut-être un besoin aussi de data journalistes, parce que vous avez eu du mal à trouver des pros ou des gens qui font vraiment ça.
Mais effectivement, les data journalistes en France se comptent effectivement sur les doigts de deux mains, on va dire, parce que c'est une spécialisation qui coûte cher, il faut former les gens, et les rédactions sont encore globalement dans des traitements très traditionnels de l'information et parfois on n'a pas d'autre choix face aux données que de faire appel au data journalisme. On doit passer par ce traitement.
Qu'est-ce que c'est l'objectif pour toi d'organiser ce type de rencontre? Tu travailles, toi, je l'ai dit mais je le rappelle, pour OVNI.fr qui est un des pôles d'excellence dans le traitement des données en France, en tout cas un des centres en France où on s'occupe de ces questions-là.
L'objectif entre autres c'est de décomplexer les gens en fait, en leur faisant mettre la main à la pâte, et ils ont accepté de jouer le jeu. Donc pour les rassurer, on les a entourés de gens qui avaient plus d'expérience. Puis ça marche, ma foi, puisqu'ils sont là.
Quel peut être l'objectif de développer ce type d'approche journalistique, d'abord en équipe et ensuite qui s'intéresse à des choses qui sont souvent étrangères aux journalistes, des chiffres, des masses de chiffres, des tableurs, des choses un peu complexes?
L'intérêt, c'est que... Les données avant n'étaient pas à disposition, maintenant elles sont à disposition. C'est des outils de travail qui permettent, en clair pour la présidentielle, puisqu'on travaille sur des données politiques, simplement de mieux informer les gens pour faire leur choix au moment du vote, tout simplement.
On va voir ce que ça donne alors. Une journée entière de boulot autour du data journalisme. En tout cas, c'est le programme aujourd'hui.
Exactement.
Allez, on entre à l'intérieur de la cantine, on va voir ce qui se passe. Oh, on reconnaît un membre de l'atelier des médias. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va.
Ton surnom c'est Nikao.
Exactement.
Tu fais partie d'une des équipes donc
Équipe numéro 6.
Et qui est ?
On est parti sur quelques idées, mais c'est là qu'on voit que en termes de données, on n'est pas encore au point. C'est pas mal, mais on n'a pas tout.
Les données publiques, on a encore des déficits d'accès à ces données.
Et oui, et malgré le travail de regard citoyen autour de tout ce qui se passe à l'Assemblée, on cherchait par exemple une corrélation entre ce qui intéresse le grand public en général, donc l'actualité, donc Google News, et ce dont on parle à l'Assemblée. Et là, on a un souci, c'est que Google News ne nous permet pas d'exporter ces données facilement. Mais donc on avait voilà, le côté, est-ce qu'il se dit dans les médias, c'est ce qui intéresse à l'Assemblée, est-ce qu'il y a un effet direct actualité égale loi.
Ça a été un peu une spécialité ces derniers temps d'essayer de voter.
Alors on cherchait à le prouver et surtout à voir par thématique. Est-ce que dès qu'il y a une inquiétude sur du judiciaire, il y a une loi
divers,
Est-ce que par contre dans le budget, une inquiétude ne se traduit pas forcément par une loi immédiate?
Donc vous êtes parti sur quelque chose peut-être de
on
trop ambitieux, c'est ça?
Et là on ne peut pas. On a cherché une espèce de course. On voudrait savoir, est-ce qu'une loi est plus rapide quand il s'agit d'une loi sur la justice plutôt qu'une loi sur, par exemple, une loi qui ouvre des droits, ou une loi plus générale dans l'économie, sur le temps de travail. Ça aussi, on a des difficultés parce qu'en fait, les données publiques ne nous permettent pas de dire si une loi a un début, une fin et sa durée. On voulait savoir aussi, par exemple, quels seraient les députés qui font passer les lois le plus vite. Donc ça, on a du mal. Donc on est en train de se rapatrier sur d'autres idées.
Toi, Nicolas, en dehors du fait que tu es membre de l'Atelier des médias, tu n'es pas journaliste de métier principal, tu es blogueur, suis énormément l'actualité.
Par contre, je m'intéresse à l'actu. Voilà, et du coup, l'actualité et l'actualité politique, forcément, c'est intéressant, c'est de rentrer dans les chiffres. Donc on a les données, quelqu'un qui va nous mettre ça en forme. On a des graphistes aussi qui vont nous aider à ce que ce soit attrayant et donc compréhensible pour le grand public. Et puis le côté informatif. Donc oui, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut mettre en valeur un certain nombre de choses, parce que graphiquement, ça parle. On regardait tout à l'heure, on a regardé nucléaire, on a vu qu'il y a eu un gros pic d'intérêt en 2007 sur le nucléaire, alors qu'il n'y avait pas d'actualité. C'était tout simplement un débat, le débat politique du second tour entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Il n'y a pas de loi à ce moment-là. Par contre, il y a un fort intérêt du public et pas de traitement médiatique. C'est surprenant. On peut avoir aussi des sujets qui sont très débattus politiquement et pour lesquels il n'y a pas d'intérêt du public particulier.
Et à tes yeux, quelle est la finalité de ce type d'effervescence, de ce type d'initiative? Bon, évidemment, on comprend bien que ça a un intérêt, qu'il y a un côté exploratoire, mais par rapport au métier de journaliste, par rapport à la création d'informations, quel est l'intérêt pour toi d'explorer ces nouvelles voies?
Déjà, c'est peut-être de se rapprocher de ce que font certains grands, je pense au Guardian, qui a vraiment une technicité et un style très particulier.
Et qui est un pionnier dans l'univers des données, avec le Datablog.
Qui est vraiment très très fort là-dedans, et peut-être voir comment en France on peut adapter ce genre de choses. Et puis, voir aussi que peut-être qu'on se dit que c'est très simple de faire une infographie un peu interactive, et se rendre compte que derrière, il y a énormément de boulot. Et c'est pas forcément un travail qui est très valorisé. Or, en termes de pédagogie, c'est très fort. En termes de compréhension des sujets, c'est très fort. Par exemple, quand on parle budget de l'État, d'un seul coup, le public peut se figurer. Ah oui, alors la TVA, ça a l'air d'être pas grand-chose, mais en termes de budget de l'État, c'est 40%. C'est énorme.
En fait, en un clin d'œil, on peut avoir des milliers, voire parfois même des dizaines de milliers d'informations visuellement. Alors que si on voulait les regarder dans un tableau, elles seraient impossibles.
Et puis même faire un texte, c'est-à-dire décrire ce qu'on peut comprendre de ça, ça peut être très long. On dit bien, un bon schéma vaut bien une longue explication, c'est un peu l'idée.
Bonne continuation, alors.
Merci.
J'espère que vous allez trouver une voie d'exploration fertile, quoi.
On a des pistes, mais on est vraiment aux frontières de la technique et de notre idée et de ce qui est disponible.
Bon courage.
En tout cas, non, c'est une application qui n'est pas tout à fait aboutie. Mais on a au moins appris quelque chose, c'est que des data journalistes débutants dans une équipe peuvent servir quelque chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien vendre quelque chose qui n'existe pas. C'est des talents naturels d'un journaliste. En fait, ce que c'est dit, c'est que ça pourrait être intéressant de noter l'activité d'un député sur un thème donné. C'est-à-dire que tous les députés ont un programme électoral.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Nous sommes toujours devant la cantine pour la deuxième édition de Hack de Presse. L'an dernier, Hack de Presse avait été donc une bataille de petites équipes et les thématiques avaient été choisies en fonction des informations qui étaient sorties sur Google le jour même. Donc il y avait eu 5-6 thématiques d'actualité. Cette année, les équipes travaillent sur des données qu'une organisation a fournies, une association qui milite pour l'ouverture des données et qui travaille en particulier sur des données politiques. Cette organisation qui en fait partie. Bonjour Tanguy Morlier.
Bonjour.
Ça s'appelle Regards Citoyens, ton organisation. Vous êtes connu pour un site qui s'appelle nosdéputés.fr qui présente donc d'une manière visuelle des informations sur la présence, le travail des députés en France. Vous avez également un site qui s'appelle nos sénateurs pour.fr qui racontent la même chose pour les sénateurs. Et donc cette année, vous vous êtes associé à Hack de Presse pour donner les données, les data sur lesquelles travaillent les équipes aujourd'hui.
Absolument. En fait, Silicone et OVNI, quand ils ont réfléchi à l'événement, nous ont demandé de participer pour savoir quelles étaient les données politiques qui seraient intéressantes. Et on s'est dit que mettre en débat les données parlementaires, vu qu'il allait avoir une élection législative en 2012, ça pouvait être vraiment intéressant. Et effectivement, c'est assez magique de voir comment les sept équipes se réapproprient les données qu'on a toujours diffusées et en font des trucs totalement nouveaux. Donc, c'est assez passionnant à suivre.
Alors, c'est quoi ces données concrètement?
Alors là, ce qu'on a mis en débat, c'est l'intégralité du travail parlementaire. Donc, ça va être toutes les interventions, tous les amendements, toutes les questions écrites, tous les rapports parlementaires et toutes les propositions de loi, ainsi que toutes les présences unitaires, donc le jour de présence, l'heure de présence de chacun des parlementaires dans son travail au sein des différents parlements.
Et comment ça se présente, ce type d'information? Parce que là, de ce que je comprends, il y a des textes de loi, il y a des présences de personnes, il y a des choses qui semblent très différentes.
Alors, c'est un petit peu, chacun de ces éléments-là peut être vu comme étant un tableur à part entière. Donc, on va avoir, par exemple, un tableur des présences, un tableur des amendements dans lequel on va avoir chacun des amendements, l'exposé des motifs, les différents signataires, etc., etc. Donc chaque élément comme ça est unitarisé et mis dans un espèce de gros tableur qu'on appelle une base de données.
Et donc ce tableur peut servir ensuite à être
à plein
utilisé par des machines.
Exactement. Donc c'est utilisé par des machines, soit à travers notre machine à nous, puisqu'on a ce qu'on appelle une API, un accès programmable à nosdéputés.fr, mais on a aussi les fichiers bruts. Donc chacun peut se le réapproprier et le mettre dans sa propre application.
Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les données ouvertes, l'open data par excellence.
Exactement. On a fait de l'open data et on fait de l'open data pour les parlements, parce que malheureusement, les parlements ne font pas d'open data. Ils font de la diffusion de documents, mais ils ne le fournissent pas dans des formats qui permettent une réinterprétation, une réappropriation, une programmation de ces données-là. Pour en faire un sens, parce que c'est ça qui est intéressant.
Ça allait être ma question. Ces tableaux, donc avec les informations parlementaires, c'est vous qui les fabriquez, vous récoltez les infos et vous les mettez dans des tableaux?
Exactement. On va, toutes les 4 heures, on a créé des petites machines qui vont aller récupérer à partir des documents qui sont fournis par le site de l'Assemblée nationale, mais également à partir du journal officiel. Tous les matins, à 6 heures du matin, on a un petit robot qui se réveille et qui va aller récupérer le journal officiel pour aller chercher les présences de tous les parlementaires dans les commissions.
Alors, on peut dire 2 mots de votre travail. Il y a des critiques qui vont dire que vous jugez les députés sur des critères qui sont absurdes, par exemple leur présence, que c'est finalement une forme de populisme, cette mise en forme, mise en image de la présence des députés, de leur travail. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Qu'est-ce que toi tu réponds?
Alors, déjà, nous on juge pas. Nous on est une boîte à outils pour essayer de comprendre comment fonctionne le Parlement. Le travail de législateur et le travail de contrôle de l'exécutif, c'est un travail qui est très complexe. Donc pour rentrer dans cette complexité, on pense que mettre à disposition un maximum de données factuelles, objectives, le plus objectif possible, ça aide le citoyen à comprendre ce qui se passe à l'Assemblée. Donc nous, on propose ces données-là, on les met en forme de la manière la plus objective possible, et honnêtement, personne n'est venu contester l'objectivité des différents indicateurs qu'on donne. Par contre, effectivement, après, il y a des gens qui se les réapproprient, qui peuvent créer des classements. Je pense à l'expansion, par exemple, qui a créé un classement l'année dernière pour pouvoir classer les députés. Mais ça, c'est pas Regard Citoyen, c'est une réutilisation qui est faite par des journalistes parce qu'ils jugent que nos critères tendent vers une certaine objectivité et qu'eux, ils veulent faire un travail éditorial autour de ça. Donc, et évidemment, ceux qui sont en bas de classement, ils sont pas contents.
En gros, vous êtes à l'origine des valeurs, mais pas du jugement de valeur.
Voilà, exactement. On est un outil, on essaye de faire de la vulgarisation autour de tout ça, mais par contre, le travail éditorial, c'est soit des journalistes qui le font, soit le citoyen qui connaît pas ce que fait son député, qui se dit, aujourd'hui, j'ai 2 minutes, je tape le code postal de mon député et en 2 minutes, je veux savoir ce qu'il fait. On a son expertise, parce que chaque parlementaire est expert, et donc on le voit clairement sur nosdéputés.fr. Il y a un nuage de mots-clés qui permet de connaître l'expertise. Et on a son implication, pas seulement la présence, l'implication. Est-ce qu'il parle? Est-ce que physiquement, il est actif au sein de l'Assemblée?
Alors, vous avez une utilisation très simple, très basique de ces données, donc notamment sur le site nosdéputés.fr. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois donc des équipes comme ça, pluridisciplinaires, qui s'emparent de vos données, qui essayent de chercher des nouvelles choses? On a fait un petit tour, on a vu donc que certains travaillent sur le cumul des mandats, d'autres travaillent sur les groupes d'amitié, donc les groupes d'amitié franco-gabonais, franco-syriens, franco, etc. Il y en a qui travaillent sur le copier-coller des textes à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça t'évoque de voir tout ça, toi?
Mais moi, je trouve ça assez magique. Enfin, nous, on croit à l'open data depuis la création de Regard Citoyen, cette mise à disposition des données publiques. C'est ce qui est magique, c'est que nous, on a créé un outil en disant, bah voilà, on veut que ce soit un outil transpartisan qui tente vers une objectivité, etc., etc. Et on s'aperçoit que, bah, en fait, si on met des personnes un peu différentes face aux mêmes données, eh ben, ils découvrent des choses totalement nouvelles. Le truc sur le cumul des mandats, j'ai toujours rêvé le faire, j'ai jamais eu le temps de le faire. Je trouve ça vraiment magique qu'en une journée, il y ait des équipes de développeurs, de graphistes, de journalistes qui disent, bon, allez, on se motive et on fait ça. Il y a une équipe qui travaille sur un mythique des parlementaires. C'est vraiment.
Un réseau
de rencontres entre parlementaires c'est vraiment une super idée, très drôle. Donc il y a plein de choses vraiment réjouissantes, et de voir que ce foisonnement là est possible à partir simplement de la mise à disposition de données brutes qui sont a priori un tableur. C'est sans doute les choses les plus chiantes qu'il y ait en informatique. On met à disposition ces tableurs là et on s'aperçoit que 6 équipes pluridisciplinaires en 24 heures vont être capables de créer des choses absolument fantastiques, hyper diverses, du truc hyper sérieux sur le cumul des mandats ou sur comment on dépose des amendements identiques, est-ce que ça vient des lobbies, est-ce que ça vient des associations, etc., etc., jusqu'à un truc totalement fun autour des réseaux sociaux.
Cette année, c'est une année d'élections en France, c'est également une année d'élections dans le monde, il y a énormément d'élections sur le continent africain, on nous écoute beaucoup. Qu'est-ce que ça peut apporter, toutes ces initiatives, toute cette ouverture de données, justement à la vie électorale d'un pays, à la connaissance de la vie politique, etc.?
Notre conviction à Regard Citoyen, c'est que la mise à disposition des données publiques, notamment parlementaires, ça va permettre une nouvelle vie à la démocratie représentative. Parce qu'au lieu que les électeurs choisissent leurs représentants une fois tous les 5 ans, 6 ans, en fonction des différentes périodes de chacune des démocraties, là, on va pouvoir faire un suivi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voter pour les gens et après les solliciter, vérifier si leurs engagements de campagne sont respectés, etc., etc.
On a toujours pu faire, mais en tout cas, grâce
avec
à
les nouvelles technologies, on peut le faire un petit peu plus simplement. Et on peut rentrer dans la complexité du travail de l'élu. Parce que l'élu a forcément un agenda hyper chargé et va s'intéresser à des sujets hyper techniques. Un bon parlementaire, il va rentrer dans le code de procédure pénale, dans des trucs qui sont hyper laborieux. Mais en même temps, quand on s'intéresse à ces éléments unitaires-là, ils sont passionnants. Et donc, valoriser ce travail passionnant qui sont faits par les élus, c'est une chance pour la démocratie représentative. Et la mise à disposition des données publiques, dans une démocratie, c'est vraiment une chance pour les élus, pour les représentants du peuple, pour le peuple et donc pour la démocratie dans son ensemble.
Alors, juste on termine très concrètement. Je sais qu'il y a des élus, qu'il y a des hommes politiques, des décideurs qui nous écoutent dans le monde, dans des pays où justement cette mise à disposition des données est encore naissante ou embryonnaire. Quels sont les conseils que tu peux donner rapidement à ces décisionnaires, à ces gens?
Faites simple. C'est-à-dire que la mise à disposition des données publiques, c'est juste un fichier sur un site web. Il faut vraiment commencer simple. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a mis un certain nombre de tableurs, et puis les gens viennent nous dire, ah, est-ce que tu peux un peu raffiner ces données-là? Nous, si jamais on avait réfléchi à tous les usages possibles, ben, en fait, on n'aurait jamais pensé aux bons besoins. Donc on a commencé à mettre des fichiers très simples, assez volumineux, en essayant d'être le plus exhaustif possible. Ça ne nous coûte pas cher. Nous, on est bénévoles, on n'est pas financés. Ça nous coûte 150 euros par mois d'hébergement, mais à l'échelle d'une institution comme un parlement, c'est ridicule. Et ça nous coûte effectivement un petit peu de sueur et d'huile de coude, mais c'est des budgets qui sont négligeables par rapport à l'ampleur que ça peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir 6 applications qui vont être faites pour valoriser les deux parlements français.
Et donc le message, c'est que de nos jours, c'est accessible à tout le monde.
C'est accessible à tout le monde.
Des individus au sud du Sahara, au nord du Sahara, dans les pays pauvres, dans les pays riches.
Exactement. Il faut faire simple et ne pas mettre de barrières. Pas de barrières financières, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on va créer, on va faire une rupture d'égalité entre les citoyens qui sont riches et ceux qui le sont moins. Et il faut pas non plus mettre de barrières technologiques. Ça veut dire qu'il faut pas mettre de format propriétaire. C'est les deux règles qui permettent de faire de l'open data efficace et qui servent vraiment la démocratie.
On continue les va-et-vient donc, entre la galerie couverte du passage des panoramas et la cantine à l'intérieur. Où c'est, d'abord, il fait beaucoup plus chaud en ce mois d'hiver et où c'est beaucoup plus studieux. On va essayer de monter au deuxième étage pour aller débusquer une équipe qui travaille sur un projet assez drôle. Pardon. On emprunte l'escalier qui est au centre de la cantine, de l'espace de la cantine. Premier étage, il y a l'équipe qui travaille sur les groupes d'amitié parlementaire. Et on arrive au deuxième étage. Bonjour.
Bonjour Ziad.
Alors là, on est monté au deuxième étage pour découvrir la dernière équipe qu'on n'avait pas encore rencontrée. Tu t'appelles comment d'abord ?
Je m'appelle Guéric Poncet, je travaille pour lepoint.fr, je suis journaliste.
Et donc là, vous êtes autour d'une table, vous êtes combien à travailler sur votre projet ?
On est une petite dizaine dans notre équipe, on est assez nombreux par rapport aux autres, mais ça crée des challenges, hein, parce qu'il faut s'entendre à plus nombreux, c'est pas forcément un avantage, mais on s'en sort très bien, et là on avance beaucoup, on a une appli qui est très jolie, grâce à un designer et des développeurs qui ont énormément bossé toute l'après-midi et toute la matinée, donc on est assez contents là pour l'instant.
Donc vous êtes en gros, pour décrire la situation, une dizaine autour de la table, avec chacun votre ordinateur devant vous, en train de regarder son ordinateur et chacun en train de faire une chose différente en gros.
Tout à fait. Alors parfois il y en a qui ont rien à faire parce que il faut attendre que d'autres avancent pour continuer sur d'autres choses. Mais voilà, surtout les développeurs et le designer ont eu beaucoup plus de boulot que les journalistes, hein, il faut l'avouer.
Et alors vous travaillez sur quoi ?
Alors, on travaille sur une application qui va essayer de montrer les affinités entre les internautes et les élus du Parlement. Donc ça sera sous forme d'un site de rencontre qui ressemblera un petit peu à Mythique, mais il faut pas le dire.
Mythique, c'est le site de rencontre le plus connu en France.
Tout à fait, tout à fait. Donc on va proposer à l'internaute d'essayer de trouver son député idéal, de rencontrer l'élu de son cœur. Donc il va devoir rentrer dans un formulaire s'il souhaite un homme, une femme, quel âge, quelle origine géographique, quel centre d'intérêt, etc. Et on va lui dire s'il existe dans l'hémicycle un député ou une députée qui correspond parfaitement à ces critères de recherche. Ce qui risque de déboucher sur des résultats nuls, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun député qui correspond et peut-être que ça montrerait un peu aux gens que les affinités entre eux et leurs élus sont pas forcément aussi énormes que ce qu'ils pensent.
Notamment, on imagine, moi je connais pas toutes les données liées aux députés, mais peut-être par rapport aux âges des personnes, il y a peu de personnes jeunes, peut-être aussi au sexe, il y a moins de femmes que d'hommes, et peut-être encore moins de femmes jeunes, c'est ça en gros ?
Alors ça ressemble beaucoup au vrai site de rencontre, c'est-à-dire que quand on sélectionne femmes, ça enlève tout de suite trois quarts des inscrits. Hein. Mais oui, l'idée c'est de montrer via un compteur qui change à chaque sélection de critères, combien d'élus correspondent encore à la recherche en fonction de l'avancement de la recherche de l'internaute.
Toi, donc, tu es journaliste au point.fr. Qu'est-ce que ça apporte, cette expérience de travail avec d'autres journalistes, avec des développeurs, avec des graphistes ?
On sait que les journalistes se posent pas mal de questions sur leur avenir. Les citoyens sont de plus en plus journalistes citoyens, entre guillemets. Et voilà, au point.fr, on pense que le data journalisme et le travail avec des développeurs, des designers et le travail de groupe, etc., sur des sets de données, permet de définir une piste un peu pour l'avenir du journaliste et du journalisme en général.
Et ça, quand tu participes à ce type de manifestation ou à actes de presse, ça te conforte dans cette idée à la fin de la journée ? Tu te dis quoi, en gros ?
Déjà, je me dis qu'on peut arriver à faire des choses hyper intéressantes quand on réunit plusieurs expertises, ce qui n'est pas forcément le cas. Le journaliste est très solitaire dans son métier assez souvent. Il fait son enquête, il rédige son article. Il peut se retrouver facilement tout seul pendant des jours entiers. Donc, travailler en groupe, c'est nouveau, mais c'est très enrichissant. Et puis, ça, voilà, c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs, je pense, de tous les web journalistes et donc des journalistes de demain. Puis, après, bon, pour les développeurs et les designer, je suppose que c'est intéressant aussi. Il faut leur demander.
Alors, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les vainqueurs peuvent gagner un Minitel, donc cet ancien appareil typiquement français, qui est un petit peu l'ancêtre local d'Internet. On est à l'intérieur de la cantine, et là, on est juste à gauche quand on entre. Et il y a une équipe de 5, 6, 7 personnes au moins. Bonjour.
Salut, Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, tu travailles pour qui, toi ?
suis data analyst en fait, à la base, je suis en train de monter ma startup qui tourne sur la donnée.
Donc tu es vraiment spécialisé dans les données et pas dans les données liées aux médias.
Exactement, les données au sens large.
Et donc là ici vous êtes une équipe de, je vois 7 places, c'est
8,
ça 8, vous êtes 8
même.
Et vous avez des profils différents, c'est ça?
On est assez complémentaires.
Il y a 3 journalistes, il y a un spécialiste des bases de données, il y a un développeur codeur, il y a un designer, donc voilà, on est prêt à bondir.
Et vous êtes en train de travailler sur quoi?
On va essayer de faire une petite appli qui permet de comparer le cumul des parlementaires à leur activité.
Le cumul, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs mandats.
Exactement, on veut traquer les cumulins et voir si c'est un impact sur leur activité législative.
Ah ouais. Et du coup, vous allez essayer de faire une application, c'est-à-dire une interface où on va pouvoir taper le nom d'un député.
Exactement.
Et vous allez du coup informer sur le nombre de mandats qu'il a.
Exactement.
Et pour montrer quel parti a le plus de cumulins et comment ça retentit sur leur activité. Des choses comme ça.
Alors la personne qui parle là-bas, vous êtes Yveud, je vous connais, vous travaillez pour Le Monde.
Oui, moi je suis journaliste au Monde.
Vous vous occupez de quoi au Monde?
Moi je suis grand reporter, donc je m'occupe un peu de tout. Depuis 15 ans en fait, je couvre très régulièrement tout ce qui concerne l'Internet.
Qu'est-ce que c'est votre regard justement de journaliste qui a connu des époques plus traditionnelles sur un événement comme celui-là?
Bah, pour moi, c'est bien de voir que les Français sont en train de rattraper leur retard. Enfin, c'est ce qu'on espère en matière de data journalisme, etc. C'est vrai qu'il y a des exemples, des gens comme OVNI, etc., qui sont assez précurseurs, même au niveau international. Mais pour le reste, c'est vrai que la France est un pays où on en parle beaucoup et on agit assez peu dans ce domaine. Donc c'est bien de voir que dans un espace de coworking comme ça, ce genre d'initiative attire beaucoup de monde, y compris des médias plus classiques comme vous, etc. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Le coworking par exemple, c'est un truc qui devrait vraiment être développé en France. Voilà, moi je suis content de voir que ces choses-là commencent à exister.
Merci et puis bon courage, parce que j'imagine que ça va pas être facile de déterminer l'activité ou de trouver des données pour juger de l'activité des députés.
On a une belle base pour ça, donc on va s'y attacher.
Bon, bon courage et merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes en train de travailler sur quoi en fait ici?
On est en train de travailler sur une visualisation des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale. Il faut savoir, tous nos députés, ils sont au moins un, voire plusieurs, voire beaucoup de pays comme amis.
On parle parfois du groupe d'amitié franco-gabonaise, du groupe d'amitié franco-sénégalaise, etc.
Voilà.
Il y a toujours des députés qui participent à ces groupes, c'est ça, ou qui les dirigent aussi.
Tous les pays ont au moins un député qui leur est attaché. Il y a des groupes d'amitié avec le Brunei, avec les Seychelles, avec des pays aussi exotiques que le Zimbabwe et le Kazakhstan. On essaie de voir un petit peu quels sont les liens de quel député, le représenter sur une carte, pouvoir le visualiser et puis pouvoir dynamiquement choisir plusieurs critères suivant la couleur politique, suivant la date aussi, voir comment ces groupes d'amitié évoluent et aussi pouvoir dans un deuxième temps, par groupe d'amitié et par député, voir s'il y a des liens qu'on peut retrouver sur Google News ou sur des médias en ligne. Qui montre un petit peu les liens entre ces différentes personnes.
Oui, parce que les groupes d'amitié, c'est un nom qui semble assez gentil, assez neutre, mais ça a souvent été aussi à l'origine d'affaires politico-financières, notamment avec des pays comme la Libye ou d'autres pays, où souvent les députés qui président les groupes d'amitié ont des collusions ou des liens étranges, parfois. Enfin, voilà. Ça arrive, quoi.
C'est souvent le petit truc qui, à la fin des dépêches, on dit « Ah, et puis en plus, il fait partie du groupe d'amitié, machin. » Moi, personnellement, je découvre ces groupes d'amitié. J'ignorais qu'il y avait des choses aussi identifié, aussi clair sur ces choses-là. Je pensais qu'il y avait des liens éventuellement de députés à ambassade, mais pas des groupes d'Assemblée nationale qu'on retrouve sur le site de l'Assemblée nationale, donc c'est vraiment officialisé. Donc le but, c'est de faire l'Assemblée internationale et de voir un petit peu la cartographie de nos députés aujourd'hui et quels sont leurs liens.
Bon, bah, bon courage.
Merci.
Et bravo, c'est un joli projet. Salut.
Salut.
Alors là, nous cherchons Irina Thibault, qui travaille donc pour la cantine, pour Silicon Sentier, qui est donc une des organisatrices. Elle est dehors, on va aller la voir dehors. On ressort dans le passage des panoramas. Irina ?
Bonjour Ziad.
Toi, tu es Nirina Thibault, tu travailles donc pour Silicon Sentier, qui est l'association qui gère la cantine, donc tu bosses aussi pour la cantine d'une certaine manière. Et tu travailles aussi pour Silicon Maniacs, qui est votre fanzine auquel on s'associe régulièrement pour organiser des événements, des rencontres, etc.
Absolument, Silicon Maniacs, c'est effectivement le pôle média de Silicon Sentier. Il y a un webzine qui est né il y a un an, en décembre 2010, mais c'est aussi beaucoup d'événements qu'on a fait ensemble et on est en train de monter une web radio.
C'est la deuxième fois que vous accueillez cet événement avec de presse, que vous vous associez à l'organisation. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type d'événement?
Nous, notre rôle à Silicon Sentier, c'est de façon générale d'accélérer l'innovation. Et donc ce qui nous intéresse, c'est des formats comme ça, d'événements où les gens travaillent ensemble, des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc là, on a des journalistes, des codeurs, des designers. Et nous, on est convaincus que pour accélérer l'innovation dans le domaine des médias, eh ben, il faut que ces gens se rencontrent. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'événement et c'est la collaboration dans un temps record.
C'est comme une sorte de réaction chimique, quoi. En mettant les éléments ensemble alors qu'ils n'ont pas l'habitude de l'être, eh ben, on crée des choses.
Ouais, c'est ça, c'est de l'alchimie, c'est de la magie. Nous, à Silicon Maniacs, on est très attachés à Maître Yoda qui dit non.
Donc, Maître Yoda qui est un personnage de la Guerre des Étoiles.
Exactement, et qui dit non, n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. Nous, on est dans le faire. Voilà. La question, c'est pas est-ce que ça va rien donner. Nous, on fait, et puis on voit ce que ça donne et on avance.
On va continuer à voir ce que ça donne. Merci.
Merci, Ziad.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une gagnant.
Amitié internationale gagne le Minitel.
Amitié internationale, l'équipe Amitié internationale.
Bah, félicitations.
Merci.
Alors, est-ce qu'on peut déjà la voir en ligne ou pas, votre application? Elle est sur quel site?
Sur le site de webreformateur.com/A 5 à 7, pardon, qui est le nom de notre équipe, parce qu'on était numéro 5 et on était 7.
D'accord. Bah, bravo, vous êtes content, j'imagine, après.
Très, très bonne expérience humaine, technique, culturelle.
Toi, ton prénom, c'est quoi?
Stéphane, et j'étais avec Michael. Ouais.
Vous êtes les deux développeurs, c'est ça, ou non?
Oui.
C'était la première fois pour vous que vous travailliez avec des journalistes et des designers comme
ça
sur une journée?
Mais sous forme de journée comme ça, en un temps si court, c'était la première fois, ouais.
Est-ce que c'était les enseignements alors de cette journée de Hack de Presse pour vous, les développeurs?
C'est de travailler dans une équipe très, très hétérogène et essayer d'intégrer toutes les idées le plus vite possible et essayer de les démontrer aussi.
Ça a fonctionné pour vous, ça? Ça fonctionne? C'est intéressant comme démarche, ouais?
Ouais, ouais. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une variété de data journalisme, à la fois de l'automatique, du vrai travail de recueil de données par des journalistes qui ont passé une partie de la journée à aller eux-mêmes chercher des données qui étaient difficiles. Il y a même une personne de l'équipe qui a interviewé la personne qui s'occupe à l'Assemblée nationale d'organiser la vie des groupes d'amitié, qui a pas eu d'ailleurs beaucoup d'infos. C'est des infos qui sont difficiles à avoir. Donc il y avait vraiment c'est ça qui nous a fait choisir ce sujet, c'est qu'il y avait un bon besoin des compétences en place et pas seulement purement du traitement automatique.
Ce qui est sympathique aussi, c'est que c'est un sujet qui a une dimension internationale, du coup qui parle un peu au monde entier dans les relations que les États peuvent avoir ou les individus peuvent avoir avec les autres États.
Et on espère que c'est un projet qui va continuer à vivre. On a pas mal d'idées d'enrichissement de l'application.
Bravo en tout cas. Merci. Merci et bravo.
C'est vraiment un alcoolique, toi.